Deux colonnes à la une. Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sur Radio DTC.
En France. Alors, mon cher Jean-François, poursuivons ce Saint-Jean qui est maintenant parmi nous en France.
Alors, il est parmi nous, mais on se rend bien compte que les deux Saint-Jean, en fait, sont indissociables et que si on les dissocie, je crois qu'on n'arrivera jamais à rien. Et alors, pourquoi sont-ils indissociables? Eh bien, parce que ils nous enseignent quelque chose. Et je crois que c'est ça qu'il faut retenir. C'est leur enseignement. Qu'est-ce qu'ils nous apportent, en fait? Et le premier enseignement, me semble-t-il, enfin du moins pour moi, c'est le temps, puisqu'il nous apporte un temps cyclique, un temps qui va depuis la Saint-Jean d'hiver à la Saint-Jean d'été, et qui revient à la Saint-Jean d'hiver pour revenir à la Saint-Jean d'été. Pourquoi est-ce important? Ben, c'est important pour une simple raison, c'est que si on veut se perfectionner, il faut redevenir au point de départ. Si le temps est linéaire et qu'on laisse derrière soi son passé sur lequel on ne peut jamais revenir, eh bien on est fichu. Impossible de se perfectionner, impossible d'aller de l'avant. Donc il faut bien une image cyclique de la chose. Et d'ailleurs, ce mouvement circulaire, ce cercle, c'est la roue du temps, ce qu'on appelle la roue du temps, qui est un concept extrêmement fameux. Vous savez que le carré, Jean-Laurent, vous savez que le carré était le symbole de la Terre avec ses quatre points cardinaux et que quand on arrivait au bord, on tombait dans l'abîme. Donc il y avait les quatre points cardinaux qui étaient marqués par le carré et le cercle, c'était le ciel. Et donc, faire rentrer le carré dans le cercle, c'est tout simplement faire rentrer la Terre dans le ciel et par conséquent devenir en quelque sorte un surhomme, un homme, un dieu. Et d'ailleurs, d'anciens, il y avait des dieux, il y avait des demi-dieux. Hercule, par exemple, était un demi-dieu, et Pythagore a longtemps été un demi-dieu. Donc voilà un peu...
Malheureusement, pour que celles et ceux qui nous écoutent, malheureusement, tombent un peu de leur piédestal, il n'y a pas de dieu parmi les francs-maçons. Aucun franc-maçon n'a été qualifié de Dieu, malheureusement. Malheureusement, non, mais, nous n'avons pas ce pouvoir.
Peut-être, mais des demi-dieux, il y en a pas mal. Ouais. Donc, voilà un peu le premier enseignement, me semble-t-il. Oui. C'est qu'effectivement, il faut un temps cyclique. D'ailleurs, lorsque, dans certaines loges, on lit le prologue de l'évangile de Jean, c'est bien ce que ça veut dire. Autrement dit, le prologue de l'évangile de Jean, c'est une nouvelle genèse. Hein, on recommence le cycle avec quelqu'un d'autre qui permet de revivre quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant. Voilà le premier enseignement, c'est donc le temps cyclique, avec cette perfection qui est au bout. Le deuxième enseignement, me semble-t-il, est méthodologique et concerne la voie à suivre pour se perfectionner, ou du moins pour parvenir à la perfection même. Alors, il y a... On sait par exemple qu'on sautait au-dessus des feux de la Saint-Jean. Alors pourquoi sautait-on au-dessus des feux de la Saint-Jean? D'ailleurs, on le fait peut-être encore dans certains villages. Et c'est une coutume qui est très importante puisque c'était, c'était un hommage symbolique à la lumière. On passait d'une rive de l'année à l'autre en sautant par-dessus, comme on franchit le gué, comme on défie le temps et la mort. C'était donc en quelque sorte se projeter vers quelque chose de neuf, passer dans une autre phase de construction de soi, une autre phase de la vie. Voilà donc ces feux, en fin de compte, qui sont semblables à ceux de l'initiation, à ce que nous vivons, nous. puisqu'on ne... C'est bien ça. On nous offre bien un feu, une nouvelle flamme qui brille en nous. Et c'est bien tout le sens de l'initiation. C'est donc le passage du temps profane au temps sacré. Voilà un peu ce que ça nous apporte. Je crois que si on voulait le dire, c'est une incitation, Saint Jean, c'est une incitation à renaître. C'est-à-dire à se transformer, à se renouveler, à renaître de son soi, à se projeter vers quelque chose qui est à la fois soi et son devenir. Je me souviens d'une anecdote que je vais raconter, tiens.
Tu peux raconter l'anecdote.
J'étais...
Oui, tu peux raconter l'anecdote.
Il fut un temps où j'étais avec, une grande psychologue extraordinaire et qui était la mère de Carlos.
Françoise Dolto.
Et donc, Françoise Dolto nous avait raconté quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand les enfants avaient reçu un traumatisme fort, et on voit les violences, les abominations, les atrocités qui peuvent exister, lorsque les enfants, alors, ils ne parlaient pas, que les parents soient là ou que les parents ne soient pas là, qu'elle soit en robe blanche, en blouse blanche ou qu'elle ne le soit pas, ils ne parlaient pas. Mais dès lors qu'elle se mettait derrière un théâtre de marionnettes et qu'elle faisait parler une marionnette, alors l'enfant parlait. Eh bien, Saint Jean, c'est un peu ça. C'est notre parole à nous intérieure. C'est lui qui nous permet, finalement, d'aller de l'avant, c'est-à-dire de nous former et d'oser dire. Et si on ne dit pas sans la parole, il n'y a personne. C'est la parole qui crée le monde.
Merci beaucoup pour cette anecdote ou cette histoire, Jean-François. Nous allons marquer une pause musicale, la première pause musicale. Et nous avons choisi pour illustrer ce moment une chanson de John Lennon qui s'appelle « God ».
Believe in me. assez.
Radio DTC.
Radio DTC.
En direct.
En direct.
Sur le toit du monde.
Sur le toit du monde.
Bonsoir, Jean-Laurent au micro de nouveau. God is a concept by which we measure our pain, disait John Lennon. Quelle phrase. Et cette phrase va introduire la chronique de Jean-Michel Dardour, qui est le président d'un think tank franc-maçon, tout nouveau, qui vient d'être créé il y a quelques mois, qui s'appelle Franc-maçonnerie et Société. Jean-Michel va ce soir nous présenter ce think tank, et ensuite il viendra chaque mois faire une chronique de franc-maçonnerie et société. Jean-Michel Dardour.
Bien, merci Jean-Laurent. Je vais essayer d'être à la hauteur après mon ami Jean-François, et puis surtout après cette belle chanson de John Lennon qui se termine par « The dream is over ». Et il se trouve que nous, à Franc-maçonnerie et Société, nous avons quand même un idéal, qui est de porter au dehors, comme on dit dans les rituels, l'œuvre commencée dans le temple. Alors, comment avons-nous commencé cette aventure? Il se trouve que lorsque j'étais premier grand maître adjoint de la Grande Loge de France, nous avions, avec mon ami et frère Bernard Ollagnier, créé un groupe de travail au sein de la Grande Loge de France sur un thème que nous avions choisi volontairement dédié à l'éthique dans les médias. Tout simplement parce qu'un grand nombre des personnalités que j'invitais à plancher à la Grande Loge de France me disaient régulièrement « Mais vous devriez vous saisir de ce sujet, vous les francs-maçons, vous devriez parler de l'éthique dans les médias. » Donc on a créé un groupe de travail qui comportait des frères et des sœurs, car nous ne sommes plus dans l'initiatique à ce niveau-là. Donc je n'ai plus le même problème que notre ami et frère Philippe Benhamou. Je peux et je dois et j'ai le devoir d'inviter non seulement des frères mais aussi des sœurs pour travailler sur des sujets qui ne sont plus du domaine de l'initiatique. Donc le travail de la loge reste initiatique et le travail dans les groupes peut se permettre donc d'avoir un certain nombre de frères et de sœurs sur ces sujets. Nous avons travaillé longtemps sur ce sujet, nous avons travaillé 18 mois et nous avons auditionné une trentaine de personnalités, c'est notre méthode, nous auditionnons des professionnels de ce secteur qui ont été des journalistes, des patrons de presse, des syndicalistes, des sociologues, des philosophes. Et cela nous a permis ensuite de faire une synthèse, parce que nous tenons à ce que nos travaux soient éminemment concrets et permettent de faire des propositions ensuite. Et donc nous avons déduit de ces 18 mois de travail. D'abord, nous avons publié un numéro hors série du journal de la Grande Loge de France qui était entièrement dédié à ce thème de l'éthique dans les médias. Ensuite, nous avons organisé un forum public pendant lequel nous avions invité toutes les personnalités que nous avions auditionnées. Et ce forum public a accueilli à peu près 300 personnes. Et il était présidé par Dominique Baudis, le défenseur des droits. Et ensuite, à la suite de tout ce travail, nous avons publié, nous avons proposé deux choses. D'abord, nous proposons qu'il y ait dans l'éducation des citoyens, dès l'enseignement primaire, une éducation aux médias. Il nous semble qu'effectivement, tous les aspects de création, de fabrication, de diffusion des médias, savoir lire la télévision, savoir utiliser le web, savoir décrypter des images, sont devenus des obligations si l'on souhaite avoir des personnes lucides, ouvertes et libres. Et puis le deuxième thème que nous avons proposé ensuite, c'était celui de créer un conseil supérieur des médias un petit peu sous le mode du CSA. Vous savez que le CSA est très utile pour réguler la diffusion des programmes de télévision. Eh bien, il nous semble que le reste des médias écrits et des médias numériques qui restent en dehors du champ du CSA On peut constater dans ces médias des dérives multiples, des aides parfois détournées, n'est-ce pas, et des manquements éthiques. Et donc, il nous semble important de porter le projet, de mettre en œuvre un comité de travail en vue de la création d'une haute autorité des médias. Donc, vous voyez, et ce travail, finalement, nous avons décidé de le transformer et de créer une association. Une association loi de 1901, qui s'appelle donc Franc-maçonnerie et Société.
Qui regroupe des francs-maçons et des francs-maçons.
Comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu le groupe qui s'est transformé en association, et donc qui permet donc de mener une réflexion, et donc d'être un think tank, c'est-à-dire une association qui porte des projets, qui crée, qui travaille, et qui porte des propositions sur des sujets de fond, mais aussi d'actualité qui préoccupent les citoyens. Et aujourd'hui, donc, nous avons trois groupes de travail. Étiquet média, qui est un sujet éternel, qui ne s'arrêtera jamais, n'est-ce pas ? Nous avons bien compris que ce sujet ne s'arrêtera pas, donc le groupe continue.
Et auditionner,
nous continuons d'auditionner et nous allons continuer à porter des propositions. Et puis, un deuxième groupe qui s'appelle Économie et Société, qui travaille sur deux axes très forts. Le premier, qui est l'éthique dans les finances. Là aussi, vous conviendrez qu'il y a
le
mal de travail à faire, effectivement. Et sur le thème du partage des richesses. Et puis un troisième groupe, bien évidemment, qui est un thème qui est très cher aux francs-maçons, c'est celui de la laïcité. Lorsque le ministre Peillon avait porté sur la place publique le thème de la morale laïque, nous nous sommes saisis de ce sujet et nous continuons aujourd'hui de travailler sur ce thème qui est évidemment aussi un thème très 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 important. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui pour expliquer à nos auditeurs et à nos auditrices ce qu'est notre association. Nous organisons aussi des débats, des dîners-débats. Il y en a déjà eu deux qui ont eu un certain succès, on va dire. Jean-Laurent, vous étiez présent. Le premier, c'était sur un thème... comme c'était le premier, on a décidé de faire quelque chose d'un peu... qui paraît léger au premier abord, mais qui finalement était aussi important. C'était le thème de quelle place pour la joie en temps de crise. Vous voyez, alors quand on voit le désenchantement ambiant, la colère qui gronde dans les régions françaises, eh bien on se dit que le franc-maçon doit faire preuve d'optimisme. Nous avons un devoir d'optimisme et nous avons aussi un devoir d'espérance partagée. Parce que l'espérance doit être partagée pour pouvoir porter une voix dans la société. Et donc nous avions invité Bernard de Bosson, l'ancien grand maître de la GLTSO. En général, ces dîners, c'est un dialogue entre un franc-maçon et un profane. Et
nous saluons nos frères de la Grande Loge traditionnelle et symbolique Opéra, parce que, honte à moi, je ne les avais pas cités dans la première émission, et je salue très fraternellement Jean Dubard, le grand maître de la GLTSO, et tous nos frères de la GLTSO qui font un travail remarquable.
Eh bien, ils étaient nos premiers invités, et ils ont d'ailleurs été les premiers à inviter notre association à leur clôture de convent. Donc je tiens aussi à leur rendre hommage. Voilà. Donc, quelle place pour la joie en temps de crise avec Bernard de Bosson et Yves Bigot, le PDG de TV5 Monde. Comme ce sont deux fans de musique et de culture, nous avons eu droit à une belle soirée sur la joie en temps de crise. Comme quoi, on peut parler de sujets qui peuvent paraître légers, mais qui sont quand même importants. Et le deuxième, c'était en novembre, deuxième dîner. Nous avons invité le grand maître de la Grande Loge de France, Marc Henry, avec l'essayiste, journaliste que tout le monde connaît, Alexandre Adler. Et nous avons fait un hommage à Pierre Brossolette. Et le thème de ce dîner, c'était de la désobéissance à la résistance.
Avec la fille de Pierre Brossolette.
Qui était présente. Et son petit-fils.
Et ses petits-enfants, Miguel, Isabelle, qui étaient présents.
Voilà. Et il y aura un autre dîner prochainement au mois de janvier. Je peux déjà vous dire que nous avons invité la grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France, Catherine Jeannin-Alté, et nous vous donnerons ultérieurement la date et le lieu. Voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas dépassé mes 3 minutes.
Non, mais il n'y a aucun souci. Jean-Michel, tu pourras nous donner évidemment tous les renseignements utiles et dès la prochaine émission, faire une chronique, en effet, franc-maçonnerie et société, en donnant les groupes de travail, tout ce qui concerne l'association, mais aussi une chronique sur la société et la franc-maçonnerie aujourd'hui.
Donc, si vous me permettez, juste une dernière remarque. Pour être membre de notre association, il faut être évidemment franc-maçon ou franc-maçonne d'une obédience, on va dire, sérieuse. Il faut être au grade de maître et il faut être assidu dans sa loge, parce qu'évidemment, ça n'aurait aucun sens de venir dans une association si on n'est pas éclairé par le travail que l'on fait dans les loges. Ça n'a aucun sens. Donc nous demandons une assiduité et évidemment de ne pas révéler au dehors ce qui se fait dans le temple. Je voulais le préciser.
Voilà. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci
de m'avoir invité.
Pour cette chronique. Et pour aller jusqu'à 21h, nous allons donner... Quelques mots de conclusion à Jean-François Maury qui nous a captivés jusqu'ici.
Je ne sais pas si j'ai captivé, mais enfin, en tout cas, je l'ai fait avec plaisir et je suis heureux de saluer tous les auditeurs et toutes les auditrices qui, un jour ou l'autre, j'espère, soit sont déjà des nôtres, soit nous rejoindront. Parce qu'après tout, vous savez, dans la société d'aujourd'hui, ce qui est quand même terrible, c'est la solitude, c'est l'isolement, c'est le manque de relations. Aujourd'hui, je me souviens d'un grand penseur qui était Lévinas, que tout le monde connaît, Emmanuel Lévinas, qui affirmait que tout était dans le visage de l'autre. Aujourd'hui, ce n'est plus dans le visage, c'est dans l'écran. Le visage est devenu plat. Il n'y a plus de trois dimensions. Donc on se met devant son iPhone ou son truc, là je ne sais pas comment on appelle ça, puis après devant la tablette, puis après devant je ne sais quoi, la télévision, bref, les visages sont devenus plats. Et au lieu d'avoir quelque chose qu'on peut embrasser, on ne peut rien embrasser du tout, c'est quand même terrible. Les francs-maçons s'embrassent, les francs-maçons aussi, c'est quand même important. Alors à part ça, je voudrais dire autre chose quand même.
Ce sera le thème de l'émission du mois prochain, mais nous y reviendrons en fin d'émission.
Je voudrais dire autre chose aussi, quand même important, c'est que vous avez vu que le Janus et donc les deux Saint-Jean sont aux deux. Et alors, c'est le soleil et la lune aussi. Or, en loge, nous avons le soleil et la lune qui fait partie. Et dans certains rites, d'ailleurs, on dit que les trois grandes lumières, c'est le soleil, la lune et le maître de la loge. Donc, c'est très, très important, le soleil et la lune.
Nous savons nos frères du rite français.
Voilà. Et donc, le soleil et la lune sont extrêmement importants. Et l'épée du vénérable maître est tournée vers la lune. La pointe est tournée vers la lune pour signifier qu'il est le gardien du temps, qu'il va du soleil au repos, du midi à minuit, puisque tel est le sens de ce Janus, c'est de minuit à minuit. Et alors, puisqu'on parlait de Saint-Jean, il y a quelque chose qui est très important et qu'il nous apporte constamment, c'est le salut. Quand en loge on se tient à l'ordre, on se met avec la main au ras du cou. Et pour se signer, pour montrer que l'on est, que pour se rasseoir, pour saluer quelqu'un, on se signe en se coupant la gorge. Or, qu'est-ce qui est arrivé à Saint-Jean ? Vous rappelez la danse des sept voiles avec Salomé, etc. C'était quand même quelque chose. Alors Hérode, vous savez, fait danser Salomé. Salomé lui plut. Hein. Il y a tout un tas de choses qui ont été écrites là-dessus. Notamment Flaubert a écrit des pages magnifiques sur ce problème, sur cette question-là. Mais à part ça, donc Salomé donc, parvient à faire décapiter Saint-Jean pour sa mère. La gorge tranchée, nous aussi, si nous rompons le secret des maçons, si nous dévoilons notre frère ou notre sœur à des profanes, par exemple, pas ici, là, vous me connaissez déjà, donc je suis déjà dévoilé, mais à part ça, si jamais vous dévoilez les frères et les sœurs, vous risquez d'avoir la gorge tranchée, du moins symboliquement. On n'a jamais tranché la gorge de qui que ce soit. Mais c'est déjà pas mal de penser qu'on peut l'avoir tranchée, c'est-à-dire d'avoir des pénalités, d'être puni parce qu'on faute. Je crois qu'aujourd'hui, finalement, quand on regarde bien, c'est peut-être ça le problème. C'est qu'on n'est plus puni à l'école même. Moi, je dis ça en tant qu'enseignant. Hein. Mais même à l'école, punir un gamin, c'est compliqué. Hein. Ça devient de plus en plus terrible. Or, pas de punition, pas de rectitude. Voilà, j'ai fait une apologie de quelque chose qui est scandaleux. Donc, merci pour terminer. C'est comme ça que je voulais terminer. Bonne soirée.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Jean-François. Merci beaucoup à Jean-François. Et nous allons encore faire une petite pause musicale parce qu'il faut. Nous passerons ensuite à la deuxième heure de notre émission avec Nathalie Kaufmann, l'art et la franc-maçonnerie. Donc ne quittez pas. Et je crois que nous allons entendre, parce que. Pour ceux qui, beaucoup ne le savent pas, mon instrument de prédilection est la batterie. Et donc, nous allons entendre non seulement un batteur, en plus, il est anglais, et en plus, il est franc-maçon. Il s'appelle Phil Collins, et nous allons écouter « In the Air Tonight ». Thank you.
Radio DTC. Radio DTC. Si ça te plaît pas, il y a toujours France Culture.
Rebonsoir Jean-Laurent, toujours au micro. Deux colonnes à la une sur Radio DTC, l'émission de la franc-maçonnerie sur la web radio Radio DTC. Deuxième heure maintenant, mais avant notre deuxième heure, je tenais à rappeler que Jean-François Maury, qui vient de nous parler de Saint-Jean, est le directeur de la rédaction de Point de vue initiatique, qui est la revue de la Grande Loge de France, et qui vient de sortir son numéro, c'est tout neuf, il y a quelques jours, pour ne pas dire quelques heures, et qui s'appelle « Construire la cité ». Voilà, en lien avec ce que vient de nous dire Jean-Michel Dardour. Alors, nous avons une deuxième heure de cette émission. Cette deuxième heure, nous la passerons avec Nathalie Kaufmann et nous allons parler d'art et de franc-maçonnerie. Et nous aurons, lors de cette deuxième heure, la chronique historique de Laurent Kupferman. Nous aurons la chronique de notre profane, Sonia. Nous aurons l'actualité maçonnique du mois d'Hélène Cuny et nous aurons une petite chronique des livres du mois que je vous ai concocté. Bonsoir BP.
Bonsoir Jean-Laurent.
Qui est arrivé en cours de route.
Oui, il fallait que j'aille chercher le champagne.
Oui. il n'y a pas que du coca. Bon, heureusement, c'est la radio, ça ne se voit pas. Mais en effet, il n'y a pas que du coca.
J'ai juste à m'inscrire en faux à propos de ce que disait Philippe Benhamou, parce que ma voisine de gauche, je suis désolé, les femmes.
Marie-Françoise Blanchet, la voisine de gauche.
C'est une femme, on lui obéissait le doigt sur la couture.
Absolument. Le doigt sur la couture du pantalon, puisque bah Marie-Françoise était colonel de l'armée française.
Eh oui, messieurs, on me saluait à six pas.
Mais bon, bref, moi, la mixité, j'aime bien ça avec les sandwichs.
Il y a tout chez nous. Ce qui est bien dans la franc-maçonnerie française, c'est qu'en effet, il y a toutes les possibilités possibles, suivant ce qu'on souhaite faire. Soit entre hommes, soit entre filles, soit en mixité.
Non, là, je préfère en mixité. Et, je suis d'accord.
Mais Jean-Laurent, en fait, j'ajouterais quand même qu'il existe entre nos obédiences des traités qui permettent d'être appartenants à deux obédiences différentes.
Oui.
Par exemple, en Horloge féminine de France, nous avons signé, il y a une dizaine d'années, un traité de double appartenance avec le droit humain. Donc une sœur, je dis bien une sœur, du droit humain, peut également appartenir à la Grande Loge féminine de France et vice-versa. On l'a signé il y a 2 ans avec la Grande Loge mixte de France et on l'a signé avec toutes les obédiences féminines européennes qui composent le centre de liaison maçonnique féminin. Donc, les frères, c'est la même chose. Ils ont la possibilité d'avoir la double appartenance avec une obédience mixte et une obédience monogenre. Ça, c'est très intéressant.
Tout à fait. Non, c'est vrai.
Tu as excusé Eva aussi.
Ah non, Eva, justement, notre chroniqueuse notre chroniqueuse de la première émission, elle n'est pas là car elle est à son banquet d'ordre, à son banquet de Saint-Jean, dont nous avons parlé tout à l'heure, et donc elle ne pouvait déroger à son obligation, et elle est à son banquet de Saint-Jean. Alors nous allons commencer la deuxième heure, et nous avons parlé d'art et de franc-maçonnerie, avec Nathalie Kaufmann-Khelifa, qui vient de sortir, je vais le dire, un superbe ouvrage qui s'appelle « De la loge à l'atelier peintre et sculpteur franc-maçon ».
Aux éditions du Toucan.
Aux éditions du Toucan, c'est une très belle maison d'édition, avec un avant-propos de Daniel Keller, qui est le grand maître du Grand Orient de France depuis 2013, de cette année, et avec une préface de José Gulino, qui fut le passé grand maître du Grand Orient de France de 2012-2013, carton plein, n'est-ce pas,
pour, transmission.
Voilà, pour Nathalie Kaufmann. Alors, ce sont, je crois, 20 ou 21 portraits d'artistes, peintres, sculpteurs. Ça va de William Hogarth à Marc Chagall, avec des noms que nous connaissons, enfin que beaucoup de personnes, évidemment, connaissent, sans savoir forcément qu'ils sont francs-maçons. Je pense à Marc Chagall, dont nous avons parlé, de Juan Gris, d'Alphonse Mouchat, de Frédéric Bartholdi, de Géricault, des Vernet, parce qu'il y en a eu, plusieurs, il y en a au moins 3 ou 4, de Jacques-Louis David, ça on le sait un peu plus quand même, d'Oudon, de Greuze, donc des noms qui nous sont familiers et connus. Une question peut-être un petit peu iconoclaste pour commencer. Y a-t-il un art maçonnique?
Alors je répondrai non. Enfin, je ne vois pas ce que peut être un art maçonnique. Par contre, il y a un art fait par des maçons. Car on s'aperçoit, enfin, j'ai pu voir à travers les œuvres que j'ai choisies dans ce livre, qu'en fait, chaque créateur, à travers son œuvre, porte un message. Alors, ce message peut être extrêmement différent puisqu'on a des peintres et des sculpteurs qui viennent de tous les horizons, qui portent aussi des idéaux parfois différents, mais toujours avec ce souci du progrès de l'humanité. Et tout à l'heure, vous avez cité donc les peintres et les sculpteurs, et c'est vrai que j'ai trouvé la preuve, qui jusque-là n'était pas encore apportée, que Géricault avait été initié. Alors, je crois que
alors,
tout le monde.
Où est-il ici?
Alors, justement, tout le monde se doutait bien qu'il devait être franc-maçon. Il était entouré de francs-maçons, amicalement, professionnellement. Mais je crois que les chercheurs, je ne sais pas s'ils étaient francs-maçons eux-mêmes, n'ont pas cherché en dehors de l'Hexagone.
Ah.
Or, la maçonnerie est universelle. Et si on regarde l'histoire de la vie de Jéricho, quand il a fait son tableau « Le radeau de la Méduse », ce tableau a été particulièrement mal reçu en France parce qu'il mettait
en cause... Ça nous semble bizarre aujourd'hui, mais c'est comme ça.
Oui, oui, parce que en fait, on peut avoir une lecture extrêmement politique de ce tableau et c'était un peu l'image du naufrage de Louis XVIII. Par oui. contre, les Anglais, qui sont toujours friands de pouvoir démolir un petit peu leur royauté, pas la leur, qui est constitutionnelle, mais la royauté française, ont accepté ce tableau avec un immense triomphe. Donc Jéricho est resté un an et demi à Londres. Et c'est pendant son séjour à Londres qu'il a été initié à la Grande Loge Unie d'Angleterre, dans une loge qui initialement s'appelait la French Lodge, et où il n'y avait que des Français. Donc c'est là qu'il a été initié et c'est la première fois qu'on a enfin trouvé les documents.
Il faut rappeler pour ceux qui ne savent pas qu'un certain nombre de Français au tout début du XVIIIe siècle se sont fait initier à Londres. Je pense à Montesquieu, parce qu'ils ont été initiés dans la même loge, et au père du marquis de Sade, enfin le marquis de Sade, mes pères, qui ont été initiés en 1730 au sein de la loge londonienne Horn, le cor, l'instrument de musique, le cor.
C'est logique pour Jéricho.
Oui, qui avait
bien vu.
qui avait été créé par Jean-Théophile des Aguliers. À Londres,
qui lui-même était français,
était d'origine française,
de La Rochelle,
et qui avait créé cette loge Horn, qui initiait un certain nombre de personnalités étrangères, dont Montesquieu et le marquis de Sade. Donc c'est vrai qu'il y avait une tradition de faire initier un certain nombre de Français à Londres.
Beaucoup des esprits des Lumières font le voyage en Angleterre.
Ils sont bien forcés.
Oui, parfois parce qu'ils sont un peu condamnés à l'exil, et aussi parce que pour la réflexion, ça pouvait être intéressant de voir comment fonctionnait le système anglais avec cette monarchie constitutionnelle, et puis avec l'émergence et la place faite à la bourgeoisie, en vérité.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'à l'époque de Montesquieu, c'était l'absolutisme royal en France, et pour trouver un parlement qui parlementarise, un roi qui donne un peu de pouvoir aux élus, il fallait se dérouter vers l'Angleterre ou vers Amsterdam, un certain nombre de pays extérieurs, en Suisse, à Genève. Je crois que nous allons d'ailleurs entendre la chronique d'histoire, parce que nous avons notre émission est parsemée de chroniques, et la chronique historique est tenu par Laurent Kupferman, et je crois que Laurent est avec nous.
Eh oui.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir Laurent.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes.
Bonsoir.
Je vous embrasse fort.
J'espère
nous aussi.
Bien.
et je crois justement, est-ce vraiment un hasard que tu as choisi ce soir de nous parler de Bartholdi?
C'est le doigt du grand architecte.
Ah oui, c'est cela.
Oui. Mais oui, absolument, Jean-Laurent. Et donc, s'il est des sculpteurs qui sont passés à la postérité, Auguste Rodin et son penseur, par exemple, Frédéric Auguste Bartholdi fait partie de ces artistes qui sont moins connus que leurs œuvres. Il faut dire que les sculptures, qu'elles soient monumentales ou de dimensions plus modestes, s'insèrent dans un double questionnement. Elles ont un objectif qui est à la fois urbanistique et qui sert aussi à édifier les foules. Donc en se penchant sur la vie de Bartholdi, l'un des sculpteurs les plus méconnus du XIXe siècle, on peut s'interroger sur la cohérence et la manière dont s'est construit son parcours. De sa première sculpture, qui est celle du général Rapp, inaugurée en 1856 à Colmar, qui est un symbole du patriotisme français, à la statue de la liberté, qui est un symbole universaliste, c'est tout un parcours, un destin que l'on retrace. Bartholdi est né à Colmar en 1834, il fait ses études à Paris, puis à 22 ans, il part pour son premier voyage en Égypte. Il a pour guide le peintre et sculpteur Jean-Léon Gérôme, le pape de l'orientalisme, et ce voyage en Égypte, ce sera un voyage initiatique qui le marquera durablement. C'est d'ailleurs sur les bords du Nil que germera en lui l'idée d'un monument monumental, si j'ose dire.
Oui.
Construire un gigantesque monument où l'Occident donnerait la main à l'Orient. Et c'était, dans l'esprit de Bartholdi, un phare monumental qui marque l'entrée du canal de Suez. Alors, il en parle à Ferdinand de Lesseps, le cousin de l'impératrice Eugénie, qui trouve l'idée formidable. Malheureusement,
que nous connaissons bien, Ferdinand de Lesseps.
Absolument. Malheureusement, pour Bartholdi, le trésor du vice-roi d'Égypte est à sec et son projet prend l'eau. Bartholdi se console en créant le monument à la gloire du général Rapp, dont on parlait tout à l'heure, son concitoyen colmarien. Alors l'inauguration est faite en grande pompe, avec force drapeaux français et autres l'arbre de la liberté. Car si nous sommes sous le Second Empire, il s'agit de célébrer la nation française, si chère aux Alsaciens, aux grandes dames de l'Empire allemand. Ce patriotisme marque une partie de l'œuvre de Bartholdi. Alors bien sûr, quand on parle patriotisme, on pense au Lion de Belfort, qui est l'œuvre qui symbolise la résistance héroïque de Belfort, menée par le colonel d'enfer Rouchereau, pendant le siège de la ville par l'armée prussienne. Le lion, qui est présenté dos à l'ennemi, sorte de garant de la paix, un lion qui n'est pas rugissant, qui n'est pas agressif, mais un lion qui est un symbole de justice, garant du pouvoir matériel et spirituel. En imaginant son lion, en 1875, Bartholdi s'approche de la porte du temple des francs-maçons. Il est initié à la loge Alsace-Lorraine, qui est une loge très active. On y trouve par exemple Jules Ferry, on y trouve qui est initié aussi à la Clémentinité au même moment que Émile Littré.
Il sera maître Alsace-Lorraine.
Absolument, on y trouve Jean Massé, qui est aussi membre de la loge La Parfaite Harmonie à Mulhouse. On y trouve Joffre, qui est initié en 75, Chatrian, initié aussi en 75, le même jour que Bartholdi, avec Émile Erckmann. La loge Alsace-Lorraine, comme vous le savez, Jean, comme tu le sais, Jean-Laurent, est composée d'hommes qui avaient été initiés principalement dans les départements occupés. C'est afin de maintenir un travail actif et maçonnique pour les frères alsaciens et lorrains que cette loge est créée, et elle est, selon le mot de Boucher, le principal centre de diffusion des idées patriotiques. Patriote engagé, donc, Bartholdi comprend aussi la nécessité d'être dans un universalisme plus important. Et c'est ainsi qu'il a célébré et pensé la Statue de la Liberté, son œuvre la plus connue dans le monde. En juin 71, Bartholdi embarque pour New York, il arrive dans la rade de New York, et il sait que c'est ici que va prendre forme sa grande idée qui est née 20 ans plus tôt en Égypte. Son ami Édouard de la Boulay, grand juriste, professeur éminent du Collège de France et spécialiste de l'histoire des États-Unis, l'aide et Bartholdi lui confie « Je lutterai pour la liberté, j'en appellerai au peuple libre, je tâcherai de glorifier la République là-bas en attendant que je la retrouve un jour chez nous ». Il est soutenu aux États-Unis par Joseph Pulitzer, le directeur du journal américain World, et en France par la Boulay qui lance une souscription pour l'érection de la Statue de la Liberté pour le 100e anniversaire du jour de l'indépendance. Le premier rivet de la statue est posé en 1881 dans les ateliers Gaget-Gauthier, situé rue de Chazelles, dans le 17e arrondissement. Le montage, vous le savez, dure 2 ans et 8 mois avec l'aide de Gustave Eiffel qui en dresse la structure intérieure, qui est tout en fer et en métal. La liberté, c'est un message, un salut de la maçonnerie française à la maçonnerie américaine. Et cette dernière l'a bien compris, elle contribue au succès de l'opération et fait couler dans le socle une plaque, en bronze avec l'équerre et le compas, les symboles de l'architecture maçonnique. À 2 reprises et au cours de différentes tenues, Bartholdi devait plancher au sein de sa loge et évoquer devant ses frères la statue de la liberté éclairant le monde, qui est l'intitulé exact.
Que les Américains appellent Miss Liberty.
Absolument, absolument.
Miss Bartholdi.
Au moins, il serait rentré dans l'histoire plus facilement.
Oui.
Et le caractère maçonnique de l'œuvre ne fait donc aucun doute. Elle mesure 33 mètres, des pieds à la tête, comme les 33 grades. Son diadème est orné de 7 branches. Elle brandit la lumière au bout de son bras qui porte la loi, et à ses pieds gisent les chaînes brisées qui peuvent nous rappeler certaines initiations. La liberté est inaugurée le 28 octobre 1886. C'est une fête gigantesque. La République est définitivement installée en France et la liberté consacre le triomphe des idées républicaines de l'Alsacien Bartholdi. À sa femme qui lui demandait pourquoi il ne lui avait pas fait d'enfant, Bartholdi répond « Mais des enfants, mais pourquoi faire ? N'avons-nous pas fait une fille ensemble ? La liberté. » Bartholdi croyait dans l'art et dans la vie. Il croyait à des principes qui ne peuvent être sacrifiés et auxquels lui a tout sacrifié, probablement sa vie privée. Il pensait que le sens de la beauté et de la justice de l'homme n'était pas sans objet. Et ça, c'est un beau message maçonnique, s'il en est.
Merci beaucoup Laurent pour cette chronique historique.
Je peux rajouter juste un tout
mais
petit...
Mais bien sûr.
Alors déjà, cette statue, au début, les Américains n'y tenaient pas du tout. Et ils n'ont pas voulu payer le socle, ce qui leur incombait. C'est pour ça que Pulitzer a lancé cette campagne.
Cette souscription.
Et là où ça devient intéressant, c'est que il faut pas oublier qu'aux États-Unis, une des principales immigrations était allemande. Or, arrive Bartholdi qui est alsacien et qui l'affirme. Et donc, il y avait quelques réticences du côté américain et Pulitzer, grand homme de communication, a réussi à récolter les fonds. Et pour la petite histoire, vous l'avez dit, donc ça a été, les premiers rivets ont été vissés dans l'entreprise Gaget. Et l'entreprise Gaget avait fait des petites statues de la liberté pour diffuser. Et du nom de cette entreprise est venu le mot anglais, américain, gadget.
Gadget.
Voilà. En fait, pour une fois, c'est dans l'autre sens.
Oui. Exactement.
C'est les Français qui ont donné.
Mais si on gratte bien, on voit que souvent c'est dans l'autre sens, mais on n'assume pas.
Mais bien sûr. Mais absolument.
Le gadget vient de gager.
Oui.
Ouais,
absolument. J'étais dans le 17e.
Le gadget est français.
Oui.
Le gadget est français.
Et les droits d'auteur qui vont avec aussi.
Merci Laurent, merci beaucoup.
Et puis, merci à toi.
Et ben, en tout état de cause, à tout bientôt et au mois prochain.
Au mois prochain. Bah, amusez-vous bien.
Oui.
Alors, bye. Salut Laurent.
Salut Philippe. Salut. Ciao.
Et je veux dire que pour Bartholdi, j'aime beaucoup la statue que j'aime beaucoup, c'est la poignée de main entre Washington et Lafayette qui ressemble quand même à s'y méprendre à une poignée de main maçonnique entre ces deux frères qui sont venus apporter la liberté aux États-Unis.
Je ne dirais pas qu'elle ressemble, je dirais qu'elle est.
Qu'elle est.
Mais là, j'ai appris quelque chose, parce que en fait, je pensais que j'avais pas de maçon dans ma famille. Ouais. Et en fait, l'un des deux, Erckmann Chatrillon, je crois que c'est Chatrillon, est un très très lointain aïeul.
Ah.
Et donc j'apprends que finalement j'ai un maçon, ils sont partout. Hein.
Les deux sont maçons.
Attention.
Voilà.
Mais ma sculpture préférée de Bartholdi, c'est la petite Alsacienne. C'est une statue qui est d'un format ridiculement petit pour Bartholdi, mais qui exprime tellement la douleur d'avoir perdu, comme dirait Baudelaire, le vert paradis des amours enfantines, à savoir son Alsace. C'est une petite fille qui est dans son tablier, à trois fleurs, un bleuet, une anémone et un coquelicot bleu, blanc, rouge. Et son rêve, c'était de retrouver son Alsace. Et malheureusement, il mourra avant qu'elle ne redevienne française.
C'est toujours comme ça, parce qu'il y a aussi une chanson où c'est un pauvre enfant alsacien qui se fait clouer par des hulans. Et qui refuse l'argent de l'allemand. C'était toujours horrible.
Il y a pire, hein, il y a le... l'enfant de l'Allemand auquel la fermière refuse de donner son lait alors que la mère de l'enfant vient de mourir.
Pas très maçonnique.
Voilà. Ah ben c'était pas maçonnique. Mais sur cette époque-là, il y avait quand même des choses qui étaient un peu... qui nous paraissent aujourd'hui, vu de notre époque, un peu violentes.
Et c'est vrai qu'avant la guerre de 14, souvent on apprenait l'histoire et la géographie à travers un petit livre qui s'appelait « Le Tour du Monde ». Par deux enfants.
Tour de France. Qui a été réédité là récemment.
Par deux enfants qui étaient deux pauvres enfants alsaciens qui avaient été chassés d'Alsace et qui donc faisaient le Tour de France et on apprenait comme ça toutes les spécificités.
Il a été réédité, on le trouve à la FNAC, ils en ont plein. Enfin, je vais pas faire de la publicité, mais je l'ai vu.
J'en ai qu'un vieux.
J'en ai pris un d'ailleurs pour le montrer à mon fils.
D'avant 18, oui.
Mais moi, j'avais une question pour rebondir sur la tienne, justement, Nathalie. Tu posais la question, est-ce qu'il existe un art maçonnique? Or, moi, je te réitère la question, puisque déjà, on parle de la franc-maçonnerie comme un art royal. Donc, et en fait, je m'étais penché sur la question pour un travail en atelier. Et j'avais découvert que art et rite ont la même racine en sanskrit. Et tu le vois dans le dictionnaire Larousse, le dictionnaire étymologique qui est publié chez Larousse. J'avais trouvé là.
Écoute, c'est une définition intéressante sur laquelle il conviendra de réfléchir. Je vais me mettre au sanskrit dès ce soir.
Mais
pour répondre un peu à BP,
Philippe Benhamou.
Un art royal ou l'art royal, si on prend l'art royal, L'ART royal, on trouve les nombres de lettres qui composent les mots 1, 3, 5. C'est un hasard ou pas? C'est un hasard.
Avant la chronique de Sonia, je voudrais juste que Nathalie nous parle, alors ça va être excessivement difficile, en quelques mots, j'allais dire, de cette loge du Grand Orient de France qui a accueilli tant et tant d'artistes du XVIIIe siècle, qui est la loge des Neuf Sœurs, puisque dans ton livre, il y a un certain nombre de portraits d'artistes qui ont appartenu à cette loge, qui, je le rappelle, avait été créée justement par le frère dont nous parlions tout à l'heure, qui est Jérôme Lalande, qui avait été imaginé...
Par Helvétius,
qui avait accueilli Voltaire aussi.
Apôtre de l'athéisme, deux ou trois ans
avant la création de la loge des Neuf Sœurs, cette loge qui a accueilli Voltaire et dont le vénérable maître après Jérôme Lalande fut justement Benjamin Franklin.
Et d'ailleurs, si vous promenez du côté de la rue de Bussy par là, il y a une pensée nostalgique puisqu'elle se réunissait là. Je crois qu'il y avait une plaque à un moment. Ici, se réunissait la loge des Neuf Sœurs.
Il y a une histoire.
Donc, Nathalie, sur cette loge et sur les quelques... Enfin, je sais que c'est très très dur.
Oui, les grandes lignes,
les artistes.
Il y a quelque chose que j'ai toujours trouvé émouvant, c'est quand Voltaire est initié, il a été vraiment initié au soir de sa vie. Et on lui remet le tablier d'Helvétius. Et ça me paraît être une belle histoire. Alors cette loge, en effet, elle a eu une aura fantastique. Il faut dire qu'elle était composée de frères assez exceptionnels. Donc dans le livre, effectivement, il y a Greuze, Vernet et bien sûr Houdon. Bon, ça, c'est pour les peintres
en trois
et les sculpteurs.
En trois mots, il faut dire qui est peintre, qui est sculpteur, etc. Juste,
alors, Houdon, sculpteur, et les deux autres peintres. Mais il y avait aussi des musiciens. Oui. Il y avait
Il y avait même Guillotin.
Oui, il y a même Guillotin, mais c'est horrible à dire, mais quelque part, Guillotin a légèrement diminué la souffrance de la peine de mort.
Je l'ai dit, il a appliqué le serment massonique.
Oui, il a vraiment tranché la gorge. Mais et c'est les motivations pour lesquelles on l'a tranché qui n'étaient peut-être pas aussi claires. Mais pour en revenir à cette loge, c'est vrai que elle avait été voulue comme étant à la fois une espèce de réceptacle où se trouvaient les grands esprits du temps, mais avec une véritable connotation culturelle et artistique. Ce qui fait que ça drainait un certain nombre de personnes, à la fois d'écrivains, de musiciens, de peintres, de sculpteurs, d'hommes politiques, français et étrangers, puisqu'il y a quelques Américains, et qu'il y a eu une impulsion absolument extraordinaire, et qu'on peut dire que la loge des Neuf Sœurs a écrit parmi les plus belles pages de la maçonnerie. Et on parlait de Bartholdi tout à l'heure, et comme quoi en maçonnerie il y a bien des ponts, puisqu'effectivement la loge des Neuf Sœurs s'est beaucoup investie auprès des insurgés américains. Et qu'elle a poussé Louis XVI à prendre parti et à aider les Américains. Ce qui n'a pas déplu aux Français, parce qu'une fois de plus, ils pouvaient régler quelques comptes avec les Anglais. Oui. Je ne dis pas ça pour le Grand Orient et la Grande Loge Unie d'Angleterre.
Non, mais c'est vrai que... Comment dire, c'est vrai que cette loge a eu un destin, j'allais dire, relativement bref,
oui.
mais en tous les cas extrêmement, extrêmement fécond. Je vous propose... Marie-Françoise Blanchet.
Il me semble d'ailleurs que les Neuf Sœurs avaient une loge d'adoption qui était présidée par Madame Helvétius. Donc on voit bien qu'à cette époque-là, les femmes avaient aussi toute leur place. Madame Helvétius, ça n'était pas n'importe qui.
Non, mais il y avait les salons de Madame de Geoffrin. Ouais. Et les femmes, elles ont été
mais
quand
entre
même...
entre les salons et la loge, c'est quand même une grande différence.
Mais parce qu'on ne les acceptait pas vraiment. Mais par exemple, Madame de Pompadour, qui n'a jamais été une sœur, ni une maîtresse... mais pas uniquement de Louis XV.
Ça n'a aucun rapport avec le fait que Marie-Françoise Blanchet est une grande maîtresse.
Et c'est elle qui a usé de son influence auprès du roi pour que paraisse l'encyclopédie. Donc, il faut quand même rendre hommage aux femmes, même si on les mettait plus dans l'alcôve que dans la loge.
C'est vrai.
La femme des Vestus, qui était la maîtresse de Voltaire, non, je
non, non, non.
Non, pas du tout.
C'est... Je crois que Benjamin Franklin voulait l'épouser et qu'elle a dit non, je reste fidèle à mon mari.
Formidable.
Ah, quand même, hein.
Formidable.
Alors, la mixité.
Alors, en complément au livre de Nathalie, avant la chronique de Sonia, je voudrais quand même citer, parce que c'est quelqu'un qui tenait beaucoup à cœur, qui est Pierre-François Pinault et qui a écrit Les musiciens francs-maçons sous Louis XVI. Où il y a un certain nombre, puisqu'il y a des artistes, des peintres, des sculpteurs et des musiciens qui sont membres de la Légion. Ce livre
est
exceptionnel. Mmh. Il y a des monographies
Rameau.
Qu'a fait Pierre-François Pinault. Après, il a fait avec Pierre Mollier sur l'état-major de Napoléon. Ce sont des livres tout à fait remarquables. Et les musiciens francs-maçons sous Louis XVI sont vraiment à lire, en complément de Pierre-François Pinault avec les peintres et les sculpteurs. Et je vous propose, sans plus tarder, d'écouter la chronique de notre profane, Sonia, qui, je crois, sera consacrée à Rudyard Kipling.
Tout à fait. Déjà, bonsoir, puisque je n'ai pas dit bonsoir jusqu'à présent. Donc, bonsoir, encore
bonsoir.
Une fois. Alors, puisque dans cette deuxième partie d'émission, sculpture et peinture ont leur digne représentant, j'ai choisi de bifurquer du domaine des beaux-arts et de m'aventurer en terre littérature autour de cette question. Quel chef-d'œuvre dans la littérature dite classique, la maçonnerie qui est censée être partout, a-t-elle pondu ? Profane, hors du temple, n'ayant jamais plongé dans les textes sous cet angle, je m'interroge d'abord sur les écrivains francs-maçons que je connais. J'ai entendu dire, et ce soir cela a été confirmé, que Voltaire s'était rendu à des réunions secrètes et fraternelles, mais qu'il a commencé son initiation sur le tard, soit quelques semaines avant sa mort. Je me remémore alors qu'une citation d'un certain Saint-Exupéry est fortement liée au Grand Orient. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Je me dis « Quel beau sujet pour une chronique !» Piège tendu aux naïfs, à en croire les initiés, Saint-Exupéry n'en faisait pas partie. Déçu de ne pas lire derrière le mouton du petit prince les promesses d'éternelles agapes, je m'en vais parcourir le livre de Pierrat et Kupferman, en version numérique, je précise, il faut vivre avec son temps, intitulé « Les grands textes de la franc-maçonnerie décryptés ». Et je m'aperçois que si bien des écrivains français se sont passionnés où on ressentit une fascination certaine pour les frères, peu ont fait partie de la franc-maçonnerie. Gide bâtit l'une des intrigues des caves du Vatican sur l'expérience cocasse de conversion d'un franc-maçon au catholicisme suite à une guérison miraculeuse et qui revient ensuite à ses premières amours, mais Gide lui-même n'était pas franc-maçon.
Non.
Nerval également, dans Voyage en Orient, traite de la légende d'Hiram, l'architecte du temple de Salomon, mais lui-même n'était pas franc-maçon. Je lis que Maupassant, bien qu'approché, était de caractère trop solitaire pour se réjouir d'appartenir à une solidarité fraternelle. Il témoigne néanmoins, j'ajouterais, dans les sœurs Rondoli d'un regard tendrement ironique et amusé sur l'oncle baptisé Sostène, sur lequel le narrateur conclut, après avoir observé ses étranges manières avec ses compagnons, et pensé qu'ils sont ainsi des millions sur la terre qui s'amusent à ces simagrées, j'aimerais encore mieux être jésuite. Sans doute, pour trouver l'auteur classique réunissant profanes et initiés, faut-il se tourner vers notre cher mais perfide Albion, qui, au temps de sa superbe impériale et impérialisme a été excusez-moi, j'ai un petit trou, mais heureusement il y a le Benamou.
Voilà, futur jingle d'ailleurs, je sens.
qui va me souffler tout de suite le reste de ma chronique. Donc je retournerai au temps de la superbe, du temps de l'impérialisme britannique pour dénicher le maître incontesté des lettres maçonniques. J'ai nommé le célèbre Rudyard Kipling, dont les poèmes sont disponibles dans toute bonne anthologie de la franc-maçonnerie, y compris dans le Benamou, et lu dans de très nombreuses loges. Alors j'entends déjà les soupirs des initiés et imagine ceux des écoliers britanniques qui ont maintes fois décortiqué les vers de « si » ou de « if » en version originale dans l'espoir de s'entendre dire un jour « tu seras un homme, mon fils ». Mais les adultes profanes que je représente ce soir seront sans doute heureux d'apprendre qu'une autre lecture que celle de Walt Disney du livre de la jungle est possible. Pour restituer Kipling dans son contexte et dans son époque, celui qu'on a qualifié de prophète de l'impérialisme britannique est né aux Indes en 1865 et a été initié dès 1885 ou 1886, cela dépend des biographies, dans une loge au Pakistan. Malgré son texte intitulé « Le fardeau de l'homme blanc » et sa réputation de conservateur et de militariste, ces textes relatifs à la maçonnerie peuvent bel et bien être qualifiés d'humanistes, voire d'égalitaristes, le travail spirituel semblant s'apparenter à une marche vers la paix, même si la concorde ne trouve un abri que dans le temple. Kim, l'orphelin ayant reçu de son père, soldat irlandais, une recommandation pour l'armée britannique et une autre pour une loge maçonnique, après avoir suivi l'itinéraire d'un lama tibétain, retourne au monde comme espion pour sa majesté. Alors, serial logeur, je dirais en langage jeune, ou grand voyageur, l'écrivain navigua de loge en loge des colonies au brouillard londonien en passant par les côtes françaises. Il garda cependant un souvenir ému de sa loge mère, terme référant à la loge où l'on est initié, donc à Lahore pour Kipling, dans l'actuel Pakistan, et avec laquelle on garde, semble-t-il, un lien indéfectible, et peut-être certains parmi vous pourront le confirmer ce soir. Je cite les quelques vers de ce poème. « Dehors, on se disait, sergent, monsieur, salut, salam. Dedans, c'était mon frère. » Et c'était très bien ainsi. Dans la loge de Lahore, donc, on croisait des hommes de toute origine, de toute religion, de toute condition. Il semblerait que je retrouve ainsi un des sens possibles de la citation de Saint-Exupéry, qui résonne peut-être d'autant plus fort que depuis quelque temps, au Grand Orient, on peut dire ma sœur également. Et je salue également les maçons, de qualifier de maçonniques des textes qui n'ont pas été écrits par leurs frères, comme de choisir pour mantra des paroles de profanes.
Merci beaucoup Sonia pour cette belle chronique sur Rudyard Kipling.
Mais tu sais le complot, Sonia, le complot judéo-maçonnique qui est partout, puisque je crois que Walt Disney était maçon.
Oui. Mais il n'était pas
même dans les dessins animés.
Donc c'est peut-être pas. Mais je voudrais juste revenir sur Rudyard Kipling.
Bien sûr.
Il y a une nouvelle.
Nathalie Kaufman.
Qui fait 40 pages. Qui pour moi est absolument extraordinaire, qui a donné un film magnifique, c'est L'homme qui voulut être roi. Dans le film, c'est Sean Connery et Michael Caine, et c'est une histoire absolument extraordinaire. Donc j'invite ceux qui n'auraient pas encore eu le bonheur de découvrir ces quelques 40 pages. J'étais un peu déçue de voir que ça ne faisait que 40 pages, mais John Ford en a tiré plus que la substantifique moelle et donne à voir un spectacle magnifique, tant sur la réflexion, sur l'attitude des hommes, que sur les paysages qui sont absolument vertigineux. Et le début du film, c'est Rudyard Kipling. Oui.
Mais ils sont un peu filous, hein, ces deux francs-maçons.
Non, complètement. Oui, mais c'est intéressant. C'est ce qui fait leur charme. C'est un peu la dualité humaine. Personne n'est totalement parfait.
Mais un film a été tiré aussi de Kim, qui est un film absolument extraordinaire. Je ne sais plus quel était le réalisateur.
Il était en noir et blanc, je crois.
Je ne sais plus, mais je me souviens avoir vu ce film Kim qui m'avait beaucoup frappé. Très, très beau.
Oui.
C'était vraiment un beau.
Mais il faut effectivement lire Kipling avec des yeux d'adulte et non pas systématiquement avec des yeux de contempteur de Walt Disney. Parce que ce que Walt Disney a fait du Livre de la Jungle, c'est très pauvre à côté de tout ce que contient le texte de Kipling.
Et d'ailleurs, on retrouve le triangle hein, chez Kim, parce que le Kim Cohn. Mais on a une très belle Saint-Jean avec certains ici hier. Et on a du mal à redescendre.
Je voulais que Nathalie Kaufmann nous dise également. Alors, malheureusement, ça passe mal à la radio, mais le livre de Nathalie Kaufmann de La Loge à l'Atelier est vraiment un très beau livre avec une iconographie tout à fait exceptionnelle. Il faut peut-être remercier. L'éditeur.
Hein, l'éditeur a été fantastique parce que j'avais quand même beaucoup d'images et je me suis dit il serait en droit de m'en refuser et il a fait tout ce qu'il a pu parce qu'il y a eu des images qui ont été difficiles à trouver et à obtenir. Il a fallu les chercher et vraiment je tiens à le remercier ici de tout le travail que je lui ai donné et qu'il a fait avec plaisir.
Ouais, en plus. Alors je passe la parole à Philippe Benhamou, mais après je reviendrai parce que je voudrais que Nathalie Kaufmann nous parle deux secondes. D'un artiste qui me tient vraiment à cœur, qui est Marc Chagall.
Oui.
Donc, Philippe Benhamou.
Oui, d'ailleurs, j'étais surpris d'apprendre qu'il était franc-maçon.
En fait, c'était ma question, Jean-Laurent. Marc Chagall, franc-maçon.
Et oui.
C'était ma question.
Nathalie.
Bon, alors, j'ai bien sûr, quand je suis tombée là-dessus, je suis tombée, comment dire, j'en pamoison. C'était vraiment une... Alors, les sources ne sont pas vraiment avérées parce qu'il aurait été initié à Vitebsk, ce qui ne facilite pas les choses. Et en fait, c'est dans un livre, dans le dictionnaire amoureux de la maçonnerie, que Alain Bauer cite Marc Chagall. Et j'avais déjà entendu ça plusieurs fois. Alors, dans le livre, j'ai mis le conditionnel. Mais ça ne me paraît pas en opposition avec ce que pouvait être Chagall. Et en plus, quand j'ai fait le livre, j'ai trouvé les artistes et j'ai essayé de chercher des œuvres qui pourraient nous parler. Et quand j'ai vu que Chagall avait illustré la flûte enchantée et qu'il disait que les deux plus belles choses au monde, c'était la Bible, dans son message en fait de fraternité et de main tendue, et la musique de Mozart, la flûte enchantée qui plus est, je me suis dit, c'est pas possible, ça, il faut vraiment le faire. Et puisque tout à l'heure, on parlait de la mixité, moi qui suis d'une obédience, mais je dois être la seule ici, Mozart, notre frère éclairé, dans la flûte enchantée, est le premier à initier une femme. Parce que Pamina arrive à l'issue des épreuves avec Tamino. Donc, rendons hommage à notre frère Mozart, grand visionnaire et musicien exceptionnel, d'avoir déjà pensé que l'initiation maçonnique devait se faire main dans la main, homme et femme.
Tout à fait, c'est vrai. Je vous rappelle que vous êtes bien sur Radio DTC, une web radio. Radio DTC, l'émission Deux colonnes à la une, l'émission qui traite de franc-maçonnerie, de spiritualité, d'ésotérisme. Si vous le souhaitez, je le rappelle encore, vous pouvez poser vos questions à nos invités au 09 53 08 00 99. Je répète, 09 53 08 00 99. Mais ils doivent être très complets, puisque pour l'instant, nous n'avons eu que peu d'appels. et je voudrais tout de suite que nous écoutions la chronique d'actualité maçonnique avec les événements qui vont se dérouler au mois de janvier. Et pour cela, nous donnons tout de suite la parole à Hélène Cuny, qui est la rédactrice en chef d'un mensuel que nous connaissons bien, qui s'appelle Franc-maçonnerie Magazine. Hélène Cuny a la parole.
Bonsoir Jean-Laurent, bonsoir à tous nos invités. Alors jetons un coup d'œil sur l'actualité de ce début d'année 2014. Je vous ai fait une sélection de quelques conférences qui ont l'air vraiment très intéressantes. La première se tiendra le samedi 18 janvier à 14h au siège du droit humain sur un thème très cher à l'obédience, un thème de bioéthique, génétique et prédictivité, quel progrès pour l'humanité. Alors on se souvient que dans les années 2010-2011, le droit humain avait organisé pas mal de conférences sur ce thème avec René Friedman, Axel Kahn, et c'était toujours des conférences de très haut niveau, très très intéressantes. Donc nul doute que cette conférence du 18 janvier sera elle aussi passionnante. Alors un autre événement ce 18 janvier, cette fois-ci au siège de la Grande Loge de France, sur un thème plus sociétal. La laïcité suffit-elle pour désamorcer l'islam radical? C'est Dounia Bouzard qui va intervenir. Dounia Bouzard est anthropologue du fait religieux. Elle a, il y a quelques mois, été nommée experte à l'Observatoire national de la laïcité. Et Dounia Bouzard, elle a un positionnement très clair. Selon elle, je la cite, on ne doit jamais instaurer un traitement spécifique pour une partie de la population. Et elle part en guerre contre l'islam radical. Elle dit même qu'il faut arrêter de nous faire croire qu'il existe un complot contre l'islam en France, comme le feraient, selon cette anthropologue, les islamistes radicaux. Donc on aura, je pense, un grand plaisir à venir l'écouter samedi 18 janvier 14h30 au siège de la Grande Loge de France. Alors, dans un tout autre registre, le Grand Orient de France organise du 6 janvier au 21 février une exposition « Fragments ou la transmission de la mémoire de la Shoah ». Donc c'est une exposition qui a lieu au siège du Grand Orient de France en partenariat avec le musée de la franc-maçonnerie. Et c'est du 6 janvier au 21 février. Alors pour finir, de manière un petit peu plus légère, je vais vous parler des soupes et burns. Savez-vous ce que sont les soupes et burns? Eh bien, ce sont des loges maçonniques qui fêtent la naissance du poète écossais et franc-maçon Robert Burns, qui est né un 25 janvier 1759. Et au menu de ces nuits, souper ou dîner, de la cuisine écossaise, du whisky, des danses et des poèmes. Alors c'est tout un programme. Alors il y a quelques célébrations Burns qui démarrent en janvier et qui se prolongent en février, donc en Écosse, en Angleterre, au Canada, en Belgique. Alors je vais vous citer la date de l'édition belge, ce sera le 25 janvier. Voilà, alors pour en savoir un petit peu plus sur ces soupes et Burns, vous pourrez lire tout le programme sur le prochain numéro de Franc-maçonnerie Magazine qui sort le 16 janvier. Voilà Jean-Laurent, à très bientôt.
À tout bientôt Hélène. 16 janvier, bonne soirée Hélène. 16 janvier, donc le prochain numéro de Franc-maçonnerie Magazine que nous attendons avec impatience, comme tous les numéros de Franc-maçonnerie Magazine. Et comme nous sommes... alors, nous sommes vraiment en direct, parce qu'on reçoit moult messages, mails, textos, etc. Et donc, on me signale que, pour revenir à ce que disait Nathalie tout à l'heure, qu'il y avait une loge du DH en Saône-et-Loire qui s'appelle Pamina et Tamino. Donc, voilà, c'est pour compléter, mais comme on nous donne à chaque fois des précisions par mail, par texto, sur les groupes ou sur les pages Facebook, donc... Nous en faisons profiter.
C'est formidable, voilà. Ça, l'information circule. Voilà. Quel beau nom de loge.
Voilà, exactement.
Et moi, je voudrais rappeler, je suis étonné que Jean-Laurent n'en parle pas, c'est l'université maçonnique du rite écossais ancien accepté, puisque samedi 14 décembre, j'ai assisté à une conférence de Francis Bardot sur l'artiste et l'initié.
Ah oui, mais ça
et le 18 janvier, ce sera sur la mort initiatique dans certaines traditions par Jacques Gauthier. Oui. Le 15 février, les rapports incestueux, j'aime bien le titre, entre la philosophie et la franc-maçonnerie. Oui. Et enfin, le 8 mars, je m'arrêterai là, le rite écossais ancien accepté au secours d'une vision moderniste du travail. Je ne pense pas qu'il parle des femmes.
Si, mais...
C'est normal, les femmes, il y a plus de femmes chômeuses que d'hommes. Dès qu'il y a des problèmes, les femmes sont toujours plus majoritaires.
On ne va pas démentir.
C'est vrai que j'ai laissé à Hélène le
moins,
choix.
Les
de
moins
faire,
bien payés, les moins bien.
Ah oui, c'est sûr que dès qu'il y a des femmes, il y a toujours des problèmes.
Non.
Ça.
Aïe.
Voilà. Ça, c'est.
Marie-Françoise. Oui, maîtresse.
Chaque misogyne pense.
Je viens de comprendre pourquoi c'était de grande maîtresse. Aïe.
Marie-Françoise a la seule réponse valable aux provocations de BP, c'est-à-dire les coups.
Voilà. Bah, donc, c'est une grande maîtresse, ça fait mal.
Donc elle lui met des coups, mais ça se voit mal à la radio, mais c'est pour ça que je le dis pour les auditrices et les auditeurs.
Je suis non violente. Voilà.
Revenons.
Le verbe me suffit.
Oui. Revenons à nos artistes et à ce livre. Il y a des auteurs, enfin il y a des artistes que j'aime beaucoup. Bon, paradoxalement, j'aime beaucoup les Vernets. David, on en a un petit peu parlé. Enfin, c'est un peu la même période que c'est l'Empire, mais peut-être une précision.
Oui,
un mot sur David et un mot après sur Juan Gris, parce que oui. C'est un artiste qui me tient à cœur.
Alors, c'est
qui a beaucoup souffert d'ailleurs.
Oui, oui, j'étais très malade, maladie. David, c'est lui qui m'a donné l'idée de faire ce livre. Car sur un livre précédent qui s'appelle « Les couleurs des déserts » consacré aux femmes, parce que j'ai trouvé que là aussi, on connaît le titre du tableau, on connaît le peintre, on ne sait même pas qui sont les femmes représentées. Or, ces femmes, elles inspirent le peintre. Et la question que je m'étais posée, c'est qui est Pygmalion, qui est Galatée, qui inspire qui? Donc, j'avais travaillé sur David. Et en voyant le serment des Horaces, tout d'un coup, j'ai eu la révélation. Et je me suis dit, mais c'est vrai. Et puis, il y avait un professeur américain dénommé Boehm qui dit, il est difficile d'étudier David sans savoir, sans prendre en compte qu'il était franc-maçon. Et à partir de là, c'est ce qui m'a fait réfléchir et je me suis dit, ça serait peut-être intéressant de regarder et d'étudier les œuvres à travers le prisme des choix philosophiques des artistes. Et voilà l'hommage que je voulais rendre à David plus personnel, tout en reconnaissant que c'est un peintre absolument extraordinaire. Le néoclassique n'est pas la période que je préfère, mais David est absolument un peintre extraordinaire. Son histoire est absolument incroyable. D'une violence, il a envoyé y compris ses amis à la guillotine. Enfin, il n'avait pas, oserais-je dire, il n'a pas fait de quartier. Et puis, il réussit à ne pas être présent le 9 Thermidor, donc il sauve sa peau. Il fait le tableau de l'intercession des Sabines, qui est un tableau parfaitement contre-révolutionnaire, lui qui était proche de Robespierre.
Et puis, Jacobin.
Oui, oui. Donc, c'est cette femme, les bras ouverts, qui réunit, oserais-je dire, ce qui était part, à savoir la France qui était déchirée. Et il promet, j'arrête tout, c'est fini. Il s'était retrouvé en prison, il a failli mourir. C'est fini. Bon, quelques jours passent et il rencontre Bonaparte. Et c'est reparti jusqu'au sacre, ainsi de suite. Donc, David, personnage extrêmement ambigu, mais artiste... De grand génie.
J'aime beaucoup. Si vous allez au... Alors, je crois que l'original est à Versailles, enfin, un des originaux est à Versailles, mais il y a le serment du jeu de paume au musée de la franc-maçonnerie du Grand Orient de France.
Tout à fait.
On voit l'esquisse du serment du jeu de paume. Alors là, pour le coup, lorsqu'on sait l'histoire du jeu de paume, c'est-à-dire que, comment dire, lorsque Louis XVI renvoie, enfin, ferme les portes de ce qu'il dira à l'Assemblée nationale, le frère Bailly, puisque c'est oui. lui quand même, aidé d'ailleurs de le frère Guillotin, va ouvrir la salle de jeu de tennis d'à ouais. côté, on dirait le court de tennis d'à côté, qui était la salle du jeu de paume. C'est quand même le frère Marquis de Drebrézé qui vient essayer de les chasser de là, et c'est le frère Mirabeau qui leur dit
« Nous ne partirons. »
Nous ne partirons.
Enfin, on lui attribuait, hein, parce qu'on n'est pas sûr qu'il
voilà,
dit.
C'est quelque chose comme
il
ça.
A le bénéfice du doute, c'est trop beau.
Il a dit quelque chose oui. comme ça, en tous les cas. Vous venez, sous les ordres de votre maître, nous sortirons oui. que par la force des baïonnettes. Après, quand on prête le serment, c'est le fameux frère Bailly.
Oui, premier maire de Paris,
puisqu'on est en période municipale. Voilà, qui sera le premier maire de Paris, qui fait ce qui est, on le voit en train de lire oui, le serment.
Il est au centre de la composition, avec un triangle derrière lui.
Voilà, derrière un triangle, avec la réunion des trois ordres qui sont devant, enfin, les clergés, etc. Et puis, ce qui est assez rigolo, quand on regarde ça, c'est que pratiquement tout le monde, en effet, tous les députés qui étaient là, ont voté le serment du jeu de paume. Il y en a un qui vote pas. Et on le voit dans le tableau de David. Il est à droite, il fait la gueule, il est sur son siège. Eh bien, figurez-vous que c'est aussi un franc-maçon. C'est le frère Martin d'Auch, député de Castelnaudary, qui ne vote pas le serment.
Ça, il avait mangé trop de cassoulet.
C'est la preuve que la maçonnerie n'est pas monolithique. Et voilà. C'est ça qui est formidable, c'est qu'ils étaient tous ensemble en étant différents. Et au premier plan ouais. du serment, ouais. moi, il y a quelque chose qui me touche, bien que je sois profondément athée, c'est effectivement, il y a le pasteur, ouais. le curé et l'abbé.
Et
l'abbé Grégoire, ouais. qui sont là et qui se tiennent tous les trois.
Le séculier, le régulier.
Oui,
et
après la réunion des trois ordres, on a la réunion de ces trois hommes d'église. Mmh. Et c'est, je crois, compte tenu du contexte et de l'époque, un superbe message de tolérance. C'est d'autant plus drôle que David, il était tout sauf tolérant, en fait. Dans sa vie.
Dans sa vie.
Le tableau du 18 Brumaire, c'est un tableau de David ?
Je vois pas le
parce que le 18 Brumaire, on a attribué ça à un complot franc-maçonnique aussi.
Oui, enfin,
oui, enfin, tout est un
tout est, oui, alors quand on,
bon, tu regardes sur Internet aujourd'hui, tous les complots,
mais en fait, y compris non, l'aéroport
je crois qu'il avait
de
bien
Denver.
Plié, puisque de toute façon, dans le consulat, ils étaient à 3, il y avait un franc-maçon déjà.
Bah, il y avait Cambacérès.
Oui, ouais. Ah, oui, qui est l'archichancelier qui sera le grand maître,
Pendant
Orient,
10 ans du Grand
Orient. Et le président de tous les rites.
Oui, oui.
Un petit mot sur Juan Gris, Nathalie Kaufmann.
Juan Gris, c'est une belle histoire. Effectivement, il quitte l'Espagne pour ne pas faire son service militaire. Alors, il ne s'appelle pas du tout Juan Gris, mais je ne sais pas si c'est parce qu'il aimait cette couleur chère aux cubistes. Mais quand il arrive à Paris, il prend ce nom-là. Alors effectivement, il a une vie assez dure, d'abord parce qu'il n'a pas beaucoup d'argent, parce que en plus ses engagements lui coûtent cher. Il y a un magnifique dessin qu'il fait de Francisco Ferrer, qui est le créateur et le défenseur de l'école libre, qui se retrouve être fusillé par les franquistes, hein, parce
qui
est un frère, bien sûr.
Il y a une loge de la Grande Loge
qui
de France
s'appelle Francisco Ferrer.
Un Grand Orient
aussi. Un personnage absolument extraordinaire. Et donc, Gris, il a cette idéologie. Il est pour l'ouverture, il est pour l'école. Surtout que l'Espagne, n'oublions pas, pays très royaliste et archi-catholique. Hein.
C'est le pays de l'Inquisition.
C'est quoi. L'Inquisition, enfin, c'est tout.
La corrida.
Oui, ça a donné des très beaux tableaux de Picasso et des dessins.
Revenons à Juan Gris.
De Manet. Donc, Juan
Nathalie,
Gris.
Ne vous laissez pas divertir par BP.
Mais oui. Et donc,
c'est parce que
Gris,
c'est d'être beau, Jean-Laurent, moi, oui.
Rencontre entre autres Picasso. Effectivement, il est marqué par le cubisme et puis il a des amis sculpteurs, dont Jacob Lipschitz, qui le mène au Grand Orient. Et. Oui. Il est initié à la loge Voltaire. Et donc, il se plaît beaucoup en maçonnerie. Hein. On retrouve dans les tracés, les comptes rendus des tenues, que le frère Gris s'implique, qu'il prend la parole. Et chose assez émouvante, il y a aussi son travail au grade de compagnon, qu'on peut trouver à la bibliothèque du Géo. Et je remercie Irène Mingui de m'avoir montré tous ces documents. Et donc, Juan Gris se plaît beaucoup. La guerre arrive, donc il perd son marchand, Kahnweiler, qui est obligé de quitter la France parce qu'il est juif. Donc, il part en Suisse. Il ne peut plus lui verser l'argent qu'il lui donnait. Donc, Gris, de nouveau, connaît des périodes difficiles. Et Lipschitz, non seulement l'a emmené en maçonnerie, mais il l'amène à Boulogne et à Boulogne-Billancourt, là où il va s'installer et où il vivra... quelques années heureuses, quelques seulement, puisque malheureusement, il est rattrapé par la maladie. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la démarche de Gris, c'est effectivement sa conception de la peinture et du cubisme et la géométrie. Et pour lui, quelque chose de très important. Or, nous savons tous que nul n'entre ici s'il n'est géomètre.
C'est vrai.
Donc, mais nul ne reste ici s'il n'est que géomètre.
Ça, je suis bien d'accord. Mais il se trouve qu'il était aussi artiste. Donc, et il a surtout un crayon absolument incroyable. C'est un dessinateur fantastique. Et malheureusement, il est mort trop vite et trop jeune. Et on ne sait pas quelle évolution aurait pu avoir sa peinture. Mais c'est un personnage à la fois important dans l'histoire de l'art et un personnage humainement extrêmement attachant, parce que fragile.
C'est vrai. Merci beaucoup, Nathalie Kaufmann, de nous avoir
C'est moi
dressé,
qui vous remercie, parce que c'était un moment formidable.
Ces portraits...
Ce livre est remarquable, parce qu'il y a beaucoup de peintres, je ne les soupçonnais pas d'être francs-maçons, notamment Juan Gris, puisque j'avais lu le livre d'Assouline sur Kenveller, où justement il cite beaucoup Juan Gris.
Grant Wood,
oui.
qui fait American Gothic. Bon, quand on dit ça aux gens, ils ne voient pas de quel tableau il s'agit. Mais le fermier, la fermière, fait était sa sœur et son dentiste. C'est pour ça qu'il doit avoir une...
On voit très bien quand on voit le tableau.
Un torsionnaire.
Et c'est le tableau qui a été le plus parodié au monde. Oui. Et donc, c'est parmi les tableaux les plus connus. Et de penser qu'il émane d'un de nos frères, c'est quand même quelque chose de satisfaisant.
C'est vrai.
Et des projets, Nathalie?
Oui, j'ai quelques projets, mais bon, il faut que j'en parle à mon éditeur. J'ai des idées un peu plein la tête, mais...
Nathalie a des livres qui coûtent cher.
Oui, mais l'éditeur est particulier.
La laïcité, ça va, non?
Oui, ça... Oui, alors là, j'en ai d'autres. Alors, je pense qu'avec Éric Ferrand, nous allons faire un autre petit opuscule sur le vivre ensemble. Donc, on va réfléchir là-dessus. Et... Là aussi, il y a matière à dire. Et l'art a aussi sa place pour le vivre ensemble.
Et j'ajouterai en ma qualité de profane que le livre est effectivement très intéressant également pour les profanes.
Et très didactique, c'est vrai aussi.
C'est Noël, la pensée.
Voilà, et justement, je vais enchaîner sur la petite chronique que je fais sur les livres qui m'ont semblé intéressants, que j'ai lus en général en tout ou partie quand même, et dont pour certains j'ai rendu compte et d'autres je vais rendre compte sur mon site. Alors évidemment, comme c'est Noël, donc je ne saurais trop vous conseiller De la loge à l'atelier peintre et sculpteur franc-maçon dont on vient de parler, de Nathalie Kaufmann-Khelifa. Je ne peux résister également à citer La franc-maçonnerie pour les nuls illustrés de Philippe Benhamou, qui est un superbe cadeau de Noël également. Je dois dire qu'il y a une très riche iconographie aussi et que Philippe a trouvé vraiment des trucs très intéressants. Et donc, c'est vraiment un très beau livre. Toujours de l'Écosse à l'écossisme de Louis Trébuchet aux éditions Ubik. Je n'avais pas cité un livre qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu parce que il a été écrit par une sœur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivia Chaumont, et qui s'appelle D'un corps à l'autre, et qui est son expérience, puisque Olivia est devenue la première femme membre du Grand Orient de France. Et donc, si le Grand Orient de France accueille aujourd'hui des femmes, c'est quand même beaucoup grâce à Olivia Chaumont. Et ce livre raconte son expérience, puisque Olivia a changé de sexe, elle était un garçon, elle est une femme maintenant. Et donc c'est vraiment un livre...
Très, très belle femme.
Oui, c'est une très belle femme. Et c'est
comme
un
quoi,
livre
il y avait la mixité quand il y avait que des hommes.
Voilà, et ouais, déjà. Et c'est vraiment un livre très, très, très touchant.
Mais parce qu'on parle de mixité en termes de sexe, alors qu'on pourrait replacer le débat en termes de genre. Et là, ça serait tout autre chose.
Et quelques livres également que j'ai beaucoup aimés. Un livre que j'ai cité tout à l'heure, que je vais chroniquer bientôt, qui sont les deux plus anciens manuscrits des grades symboliques de la franc-maçonnerie de langue française, d'Alain Bernheim, qui est l'un des plus grands spécialistes français de l'histoire de la franc-maçonnerie, puisqu'il est même le premier surveillant de la loge de recherche de la Grande Loge Juive d'Angleterre.
Quatuor Coronati.
Oui, exactement. Et donc, c'est le seul Français qui a cet honneur, j'allais dire. Et Alain Bernheim nous délivre toujours des livres de très grande qualité. Un autre livre qui s'appelle « Des tailleurs de pierre aux francs-maçons, mythes ou réalités » par Jean-François Blondel aux éditions Jean-Cyril Godefroy, qui est un livre très intéressant. Un livre que je commence seulement, mais qui a l'air d'être particulièrement passionnant, qui est « Les débuts de la franc-maçonnerie française de la Grande Loge au Grand Orient, 1688-1793 » de Daniel Kerjean, qui est un de nos frères du Grand Orient de France.
Remarquable, je l'ai entendu, puisqu'il est à Montmorency-Luxembourg. Je l'ai entendu il y a 3 semaines, justement.
Il fait un certain nombre de conférences sur ce sujet, avec une préface de Roger Daché. C'est aux éditions Dervide dans la collection Renaissance traditionnelle. Il vient de sortir il y a quelques jours ou quelques semaines. Ensuite, un livre qui pour moi est vraiment un des livres majeurs, qui s'appelle L'idée maçonnique d'Henri Tornouguès, qui était très malheureusement introuvable depuis un certain nombre d'années. On ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est vraiment un livre majeur de mon point de vue sur ce que peut être la doxa pour être franc-maçon. Henri Tornouguès fut un grand maître de la Grande Loge de France, mais ses écrits sont vraiment excessivement éclairants. Et donc l'idée maçonnique vient de ressortir...
Henri Tornouguès avait pour épouse...
Marie-Françoise Blanchet.
Henri Tornouguès avait pour épouse Régine Tornouguès, qui a été grande maîtresse adjointe de la Grande Loge féminine de France et fondatrice d'une loge de Narbonne qui s'appelle Élikia. C'est une femme absolument extraordinaire. Et sa fille, Sylvie, est franc-maçonne aussi. Elle était à Bordeaux. Maintenant, elle a quitté Bordeaux. Mais,
à la Grande Loge féminine de France.
Voilà, à la Grande Loge féminine aussi. Et je dois dire que Henri, tout en étant très imprégné de toute la culture de la Grande Loge de France, était aussi très, très sensible à ce qui se passait à la Grande Loge féminine de France.
Ah, c'était vraiment quelqu'un, enfin, moi je l'ai connu peu, mais je l'ai connu un petit peu, c'était un prof de philo,
avec son accent du sud-ouest, là, que j'avais connu dans la librairie qui se trouvait en face de la Grande Loge. Il était assis chez Serge, qui tenait la librairie à l'époque, dans un vieux fauteuil en cuir. Et il discutait avec tous les petits jeunes comme nous qui venions acheter quelques bouquins, etc. C'était un type remarquable, d'une gentillesse absolue, d'une culture encyclopédique. Vraiment quelqu'un comme on en rencontre peu, et ses ouvrages sont toujours particulièrement exceptionnels. Et enfin, j'ai commencé, pour tout vous dire, je suis loin de l'avoir fini, mais j'ai commencé, je tenais quand même à vous le signaler, parce qu'il y a des fans de René Guénon, qui s'appelle « René Guénon, une politique de l'esprit », il y a quand même 500 pages, par David Bisson aux éditions Pierre-Guillaume de Roux. Bizarrement, moi, je ne suis pas un grand guénonien, pour tout vous dire, mais
c'est pas la femelle du singe.
C'est ce que j'ai lu, non. Ce que j'ai lu, en tous les cas, pour le début, les 50 premières pages que j'ai lues, c'est plutôt pas mal écrit et ça explique plutôt bien les choses. Voilà, donc je tenais à le signaler.
Jean-Laurent, je voudrais juste...
Et BP va nous parler.
Attends, juste avant après je reprends la parole après Sonia. Mais juste, je sens que ça sent une émission sur René Guénon. Et qu'on aura beaucoup à dire.
Pitié. Et moi, je voudrais quand même...
Je reprendrai la parole après Sonia.
Je voudrais rebondir, Jean-Laurent, sur la fin de ma chronique. Je voudrais aussi relancer les livres écrits par notre regrettée sœur, enfin, sœur en humanité, Françoise Jucourt-Écuyard.
Le premier sur la Grande Loge symbolique écossaise
et l'autre sur l'initiation féminine.
L'initiation des femmes qui est vraiment
remarquable. Parce que ce sont deux livres absolument extraordinaires et je pense que beaucoup de francs-maçons masculins devraient le lire, parce que c'est vraiment toute une histoire qui est complètement connexe à la leur.
Sonia.
Oh, c'est pour faire une petite transition, comme il a été beaucoup question de mixité ce soir. Peut-être, Jean-Laurent, peux-tu annoncer la prochaine émission, enfin le programme de la prochaine émission, parce que ça donnera peut-être des idées.
Je vais l'annoncer dès que BP aura parlé du livre qui lui tient à cœur.
Alors justement, je vais rebondir sur René Guénon. Je pense qu'il faut aller un peu au-delà de la pensée guédonienne, parce que bon, la crise du monde moderne, il y a 70 ans, ça va. On a tous un peu parcouru un livre de Mircea Eliade qui s'appelait Le Sacré et le Profane. Or, par hasard, dans mes pérégrinations, je suis allé dans une librairie qui s'appelle La Procure, où ils ont un excellent fonds bibliothécaire, et je suis tombé sur trois volumes d'un auteur, un docteur en théologie, qui enseigne l'histoire des religions à l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, ce qui n'est pas rien, Julien Ries. Et je suis en train de lire un des trois volumes qui s'appelle « Symboles, mythes et rites, constantes du sacré ». C'est assez intéressant puisqu'il reprend tout le symbolisme, etc., y compris le symbolisme violent à travers les nazis, etc., qu'il n'approuve pas, mais c'est très intéressant. Et ça va beaucoup plus loin que Mircea Eliade. Et les deux autres tomes sont justement « L'homo religiosus et son expérience du sacré » et « L'homme et le sacré ». C'est vraiment très, 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 très fort. Et je pense que ça mérite, il y a des citations, il n'est pas du tout, bien qu'il soit docteur en théologie, etc. Sa bibliographie est complète, puisqu'elle va, justement, il cite Lalande, etc. C'est vraiment exceptionnel. C'est beaucoup plus profond que Mircea Eliade. Et c'est aux éditions du CERF, en patrimoine histoire des religions. Alors celui-là, c'est Julien Ries, Symbole, mythe et rite. Alors si celui-là, je l'ai commencé parce qu'en fait, on nous a tous posé la question, quelle est la différence entre le mythe, la légende, le symbole, le rite, etc. Et il y a énormément de réponses là-dedans.
Et avant de nous quitter, puisque l'émission touche à sa fin, nous avions...
Attends Jean-Laurent, je vais juste être impoli et t'interrompre. Et je recommande aussi le livre de Nathalie parce qu'il est vraiment remarquable. Ouais. C'est vraiment l'un des seuls sur l'art et la franc-maçonnerie. Donc là, c'est à travers les peintres et les sculpteurs. Et j'avais pas ressenti un bonheur à lire un livre là-dessus depuis le livre sur la musique franc-maçonne de chez Fayard.
Je te remercie.
Et qui date d'il y a 20 ou 30 ans. Hein. Donc ça veut dire que... Voilà.
Merci beaucoup, Bépé. Donc, nous avions une demi-heure de retard le mois dernier. Nous avons 13 minutes de retard aujourd'hui. Nous nous améliorons d'émission en émission.
2013.
Voilà, exactement. Donc, en 2014, ça devrait aller mieux, j'espère.
Je pense pas vu le sujet.
Nous nous retrouverons très justement en 2014. Donc, nous nous souhaiterons une bonne année à ce moment-là. Et nous nous retrouverons autour du livre...
Bonne année profane, parce que la bonne année maçonnique, ça sera le 1er mars.
Oui. Ce sera une bonne année profane au mois de janvier, une bonne année maçonnique au mois de mars.
Une occasion pour boire encore du champagne.
Voilà, encore un peu de champagne.
Tous les frères sont bons, on ne maigrit jamais en franc-maçonnerie.
La prochaine émission aura lieu...
Et tous les francs-maçons étaient profanes un jour.
Non, oui. La prochaine émission, je vais y arriver. La prochaine émission... aura lieu donc le vendredi 17 janvier 2014. Elle sera organisée autour du livre de Jacques Ravenne,
Les
sept vies du marquis, donc du marquis de Sade. Nous traiterons donc une émission qui s'appellera Choderlos de Laclos, Casanova, Sade, libre et de bonne mœur, point d'interrogation, symbolisme, érotisme et ésotérisme. Et nous aurons donc le plaisir de recevoir Jacques Ravenne pour son ouvrage. Emmanuel Pierra, qui a écrit à la fois un certain nombre d'ouvrages traitant de l'érotisme et un certain nombre d'ouvrages, notamment avec Laurent Kupferman, traitant de la franc-maçonnerie. Nous aurons normalement également un autre auteur qui s'appelle Frédéric
président
Vincent.
Président du prix SAD.
Et Emmanuel Pierra est président du prix SAD. Et Frédéric Vincent, qui a écrit un très bel ouvrage paru, je crois, il y a 2 ou 3 ans, qui s'appelle « La symbolique du corps », qui est vraiment un ouvrage très intéressant.
Qui a été primé, d'ailleurs.
Qui a été primé au Salon maçonnique du livre de l'année dernière, je crois. Il y aura un certain nombre, peut-être, d'invités surprises, j'allais dire. Et donc, c'est autour du symbolisme, de l'érotisme et de l'ésotérisme, autour du Marquis de Sade, que nous envisagerons, j'allais dire, l'émission du mois de janvier 2014. Et avant de nous quitter...
Ça a duré toute la nuit.
Je remercie.
Quel beau début d'année.
Quel beau début d'année.
Et d'ailleurs, il est intéressant ce livre sur
la
symbolique du corps, parce que je le trouve... Je trouve qu'il renouvelle un peu, parce que c'était un livre d'Annick de Souzenel, je crois, sur...
C'est un autre objet. Il est plus maffézolien, on va dire.
Oui.
Donc je remercie Jean-François Maury, je remercie Nathalie Kaufmann, Marie-Françoise Blanchet, Philippe Benhamou, Jean-Michel Dardour, Laurent Kupferman, Sonia, Hélène Cuny d'avoir été nos invités et nos chroniqueurs de ce soir. Et donc à toutes et à tous... au mois prochain, autour du symbolisme, de l'ésotérisme, oui, et du marquis de Sade.
Et de la franc-maçonnerie.
Bonne nuit à toutes et à tous.
Deux colonnes à la une. Colonne à la une, les francs-maçons sur Radio DTC.